Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin.
Parole de femme.
Le Togo connaît une nouvelle génération de femmes artistes engagées, dont la jeune slameuse Saphir Kpé. Ses rimes dénoncent de nombreuses injustices vécues par les filles et les femmes. La chanteuse a lancé le concept Femislam ou le slam au féminin. Partons à sa rencontre dans un reportage d'Amen Assignon.
Quel honneur de savoir que la nature est une femme.
Regard malicieux, sourire au coin des lèvres. Dans sa tenue traditionnelle, Saphir Kpé n'a aucun mal à retenir l'attention du public lors de ses prestations sur scène. Mais sous cette apparence simple se cache une femme de poigne, une femme qui ne mâche pas ses mots. Engagée pour la cause féminine, la slameuse togolaise utilise son art depuis 4 ans pour dénoncer les injustices que subissent les femmes. Comme elle le raconte, sa rencontre avec le slam a été la révélation de son talent.
Bien avant le slam, inspirée, je faisais coucher des mots, des textes par écrit, avec une forte envie d'en faire de la poésie. Une soirée comme par hasard, je suis tombée sur une émission radio où des slameurs disaient leurs textes. Waouh, la beauté de la chose. Je suis tombée fortement amoureuse du slam et m'y investie, une lettre après l'autre, poursuivant mon unique objectif, penser nos mots. Le slam m'a juste courtisé, quand je suis encore frappée de cécité, mais les moyens pour me séduire ne lui ont pas manqué, et voilà où nous en sommes.
De son vrai nom, Missy Agbeto Maoli, Saphir Kpé est une amoureuse des mots, convaincue que les rimes, les vers, peuvent être des armes idéales pour combattre les mots qui minent nos sociétés. Son nom de scène, Saphir Kpé, qui veut dire « la pierre de saphir » en français, elle l'a choisi tout simplement pour dire qu'elle est une femme de valeur, une manière aussi à elle de dire que chaque femme prise individuellement est précieuse. Avec son concept Femislam qui vise à donner la parole à la femme pour parler de la condition des femmes en Afrique, la jeune artiste ouvre le champ à la féminisation du slam au Togo.
Femislam, c'est tout simplement du slam au féminin, autrement des femmes claquant des mots contre leurs mots.
Le message fort pour moi serait à l'évidence l'importance à accorder à la femme. Non seulement la femme peut quelque chose, mais la femme est elle-même quelque chose. Le ciment pour construire ce monde, notre monde. Respecter une autre femme, c'est d'abord respecter sa propre mère. Donc bref, respectons la femme.
Saphir Kpé façonne son imaginaire artistique dans la langue Évé, sa langue maternelle, langue dans laquelle elle slame pour se faire entendre, marquer sa singularité tout en mettant un caractère identitaire à chacun de ses textes. Mais elle utilise d'autres langues comme le français, l'anglais ou encore l'allemand dans ses créations.
Nyavamea de Baodona, Koko Povidua, Akpanya Otana.
Amen Assignon, Lomé pour la VOA. Les femmes engagées dans des domaines d'activité autrefois réservés aux hommes se félicitent de l'évolution des mentalités qui fait qu'il n'y a plus vraiment de métier tabou pour la gente féminine dans le pays. Notre correspondant à Kigali, Jean Damascène Manishimwe, a tendu son micro à des femmes qui pratiquent ces métiers.
Débrouiller une forêt minière utilisée par Mme Jeannette Moutessi.
Nous sommes avec elle dans une mine où est extrait le coltan à une quinzaine de kilomètres au sud de la capitale rwandaise Kigali. Cette mère de deux enfants se sert de cet engin pour percer des roches. À la recherche du coltan, c'est son labeur quotidien de 7h du matin à 16h. Dans le temps, de tels travaux durs étaient uniquement réservés aux hommes. Une conception qui a évolué pour le moment, comme l'indique Madame Moutessi.
Je dirais à ceux qui hésitent encore que les femmes sont aussi capables. Nous avons plusieurs obligations comme femmes, mais nous devons y ajouter notre part. Il ne faut pas se sous-estimer, mais plutôt avoir confiance en soi. Si on le fait, on vient à bout de n'importe quel travail.
Cette mine dans laquelle travaille Moutessi est détenue par une femme entrepreneur, Madame Vestine Kamugwera. Comment a-t-elle pu arriver à ce stade?
Nos autorités ont sensibilisé le public à créer de l'emploi pour gagner la vie. C'est ainsi que j'ai pensé à l'extraction minière. Je me disais que ce domaine rapporte beaucoup. J'avais la volonté et j'ai relevé ma détermination. Comme ça, je me suis lancée dans l'extraction minière.
Les femmes sont nombreuses dans ce domaine d'extraction minière et dans d'autres métiers autrefois considérés comme durs. Mokanyirigira et 14 autres femmes travaillent quotidiennement avec une centaine d'hommes dans cette mine de Kamoni. Ces femmes se sentaient fières d'avoir intégré ce métier et en tirent les revenus qui leur permettent de subvenir aux besoins de leur famille.
Nous devons travailler pour notre développement. Aucune femme n'est complexée au travail pour le moment. Les mentalités ont évolué et nous trouvons ceux qui nous engagent. Il suffit d'avoir du savoir-faire et la force de le faire.
Clémence Munezero travaille, elle, comme technicienne dans la centrale électrique de Musanze, c'est au nord du Rwanda, un domaine que les femmes n'abordaient pas non plus dans le temps. Les statistiques de l'école polytechnique du Rwanda montre que dans les 100 dernières années, les femmes constituaient 23% de l'effectif total de tous les étudiants, alors qu'elles sont de 26% pour l'année académique en cours. Pour briser les concessions d'antan qui interdisaient certains travaux aux femmes, les autorités rwandaises mènent depuis des années des campagnes de sensibilisation qui font que les femmes jouissent de leurs droits au même titre que les hommes et deviennent désormais de plus en plus nombreuses dans des instances de prise de décision, comme au Parlement où les femmes constituent 61% de l'effectif total des parlementaires à la Chambre des députés. Jean Damasène Manichimwe à Kigali pour VOA Afrique.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi. À travers le regard des femmes et des jeunes.
Le break dancing est en train d'innover avec l'inclusion de la discipline aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 et la participation de nombreuses filles et jeunes femmes qui se lancent dans cette activité sportive et artistique traditionnellement dominée par les hommes. Évadons-nous un instant dans le monde du break dancing avec Dilly Dico.
Lors du championnat mondial Red Bull One de breakdancing à New York, des concurrents masculins et féminins du monde entier se sont disputés la première place dans une discipline qui fera bientôt partie des Jeux Olympiques. Les racines du breakdancing remontent à l'apparition de cette danse dans des quartiers défavorisés aux États-Unis dans les années 70 et 80, lorsque des hommes, principalement afro-américains et latinos, se défiaient dans les rues dans des concours de breakdance.
Une danse américaine qui vient vraiment d'ici, lorsque vous commencez à comprendre le breakdance et que vous apprenez son histoire, vous apprenez qu'elle vient du Bronx, de communautés appauvries où les enfants n'avaient pas grand-chose. Ils utilisaient cette danse comme une forme d'expression personnelle et quand on voyage dans le monde et qu'on rencontre différentes communautés, on voit que cela leur a donné une voix.
Cette danse dominée par les hommes s'est transformée en un sport accueillant tous les sexes. Depuis 2018, l'événement du championnat Red Bull comprend une catégorie distincte pour les femmes et a vu une énorme poussée de ses compétitrices connues sous le nom de Big Girls. Sunny Choi, 34 ans, est l'actuelle championne nord-américaine de breakdance B-Girl.
There's always been women in the community, always been women kind of fighting for their place.
Il y a toujours eu des femmes dans la communauté, il y a toujours eu des femmes qui se battent pour leur place dans la communauté. Et de voir autant de femmes participer maintenant, je pense que c'est mieux pour la communauté d'avoir un peu plus d'équilibre entre les sexes.
To have a little bit more, like gender balance.
En pleine préparation pour les JO de 2024, la génération actuelle des B-Girls est consciente des responsabilités et des pressions auxquelles elle sera confrontée à Paris.
Being the first woman.
Être la première femme aux Jeux Olympiques, cela va signifier beaucoup pour tant d'autres filles qui regarderont, mais aussi pour tout le monde dans la communauté, car c'est à nous de défendre nos intérêts tout au long de ce parcours, car c'est la première fois.
Pour Sunny Choi, le breakdance peut aider notre société non seulement à identifier les rôles de genre, mais aussi à mieux les comprendre et les appréhender.
Cela signifie vraiment beaucoup de voir tant de femmes si fortes qui font tant de choses incroyables là-haut et qui sont juste capables de tenir debout d'elles-mêmes. Vous savez, ça fait du bien.
En entreprenant ce voyage vers les Jeux Olympiques, Sunny et les autres breakdanceuses sont sûres d'inspirer la prochaine génération de B-Girls.
Skateboard, un sport autrefois pratiqué dans la rue, prend également de l'essor, notamment après avoir fait sa grande entrée aux Jeux Olympiques de Tokyo. Comme le breakdancing, cette discipline sportive est de plus en plus prisée par les filles. Un reportage de Vina Mouptadi, relaté par Blanche Sani.
Après plus d'un an resté à la maison à cause de la pandémie, Angela Justice, 11 ans, a voulu essayer quelque chose de nouveau. Elle a choisi d'apprendre à faire du skateboard, un choix qui a surpris sa mère.
J'ai été choquée quand elle me l'a dit. Et puis, nous avons commencé à voir d'autres petites filles dans le parc en train de patiner.
Elle fait partie d'une dizaine d'étudiants qui ont appris le skateboard auprès de Gotham Wheel, un groupe dans le comté de Montgomery, dans le Maryland.
I seem to have more inquiries from girls.
Je vois de plus en plus de demandes de filles, ce qui signifie que les filles ont décidé de franchir les barrières de nos jours, surtout aux Jeux Olympiques. Nous voyons des jeunes filles remporter les plus gros prix, comme gagner l'or.
Ce changement est bien accueilli par les skateurs professionnels, dont l'athlète Nemas Bumesita.
En Indonésie, j'étais vraiment contente de faire du skate avec d'autres filles. Parfois, lorsque nous nous entraînons, nous aimons suivre les compétences de chacune.
La jeune femme de 15 ans se souvient que la situation était très différente lorsqu'elle a commencé à pratiquer ce sport en 2014.
C'était encore dominé par les garçons parce que toutes les filles étaient plus âgées, 18 ans ou plus. J'étais la seule fille plus jeune.
Aujourd'hui, Cinta a remporté une série de médailles nationales et internationales. Elle était la plus jeune médaillée des Jeux asiatiques organisés en Indonésie en 2018. Et elle a participé à l'épreuve de qualification américaine pour les Jeux olympiques de Tokyo.
Les jeunes pouvaient. En Côte d'Ivoire, les autorités tentent d'empêcher les groupes armés islamistes de recruter des jeunes sans emploi. Voici un reportage de Henry Wilkins à Kong, dans le nord du pays, avec un récit d'Arzuma Compaoré.
La basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro, la capitale de la Côte d'Ivoire, a été construite en partie pour commémorer l'ancien président Félix Houphouët-Boigny. Pour de nombreux Ivoiriens, son règne de 33 ans a représenté une période de stabilité. Aujourd'hui, des groupes armés du Nord liés à Al-Qaïda et à l'État islamique mènent des attaques. Selon le père Franck Alatin, recteur de la basilique, la paix est un élément essentiel de la culture ivoirienne.
Si vous voulez la paix, préparez la guerre. Notre président Félix Houphouët-Boigny pensait autrement. Pour lui, si on veut la paix, il faut préparer la paix. Et pour cela, il faut travailler sur l'esprit et le cœur des gens.
le gouvernement ivoirien a annoncé qu'il dépenserait 55 millions de dollars dans un programme de création d'emplois pour gagner le cœur des jeunes hommes sans emploi du Nord qui, selon lui, sont les plus vulnérables au recrutement par les groupes terroristes.
Le gouvernement a analysé la situation et a compris qu'il fallait aussi apporter une réponse économique, une réponse sociale à ce phénomène. On ne peut pas venir avec juste des chars, juste avec une force militaire pour contrer le terrorisme.
Dans la ville de Kang, dans le nord du pays, près de l'endroit où des attaques ont eu lieu depuis 2020, les jeunes hommes luttent pour trouver du travail. Bassina Konaté est un tailleur de 25 ans qui ouvre sa boutique tous les jours, même si les clients ne viennent plus que très rarement.
Mais ça embrouille l'oreille.
Pour moi, il n'y a pas assez de travail ici. Je dis ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés à l'école, mais dès qu'ils ont leur baccalauréat, ils vont chercher du travail ailleurs parce qu'il n'y a pas de travail ici.
Samou Bachaté dit qu'il est au chômage.
Je ne suis pas allé à l'école. Je suis juste allé à l'école coranique et puis j'ai appris à conduire avec les camionneurs. Il n'y a pas vraiment de travail. Nous attendons juste que les camions de ciment ou de noix de cajou arrivent pour pouvoir aller aider à décharger et gagner un peu d'argent.
Pendant ce temps, selon les analystes, les groupes terroristes offrent des récompenses aux jeunes recrues.
Au niveau du Nord, le recrutement des jeunes se fait tout simplement par l'argent. C'est leur offrir de l'argent, des motos et même souvent aussi des parcelles de terre cultivables. Des parcelles de terre cultivables. Et évidemment, devant des populations paupérisées, ce sont des choses extrêmement importantes.
Quant à Konaté, il dit être en colère contre le gouvernement.
Si le gouvernement avait créé des entreprises et des usines dans la localité, les jeunes auraient eu de quoi travailler et gagner de l'argent.
Malgré de multiples demandes, le gouvernement n'a pas pu présenter à la VOA les bénéficiaires de son projet de création d'emplois, bien qu'ils disent que le projet a commencé.
Capitale du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo, un jeune entrepreneur a créé une entreprise semi-industrielle de fabrication d'emballages biodégradables, une alternative écologique face aux problèmes de pollution de l'environnement. Selon lui, le correspondant de VOA Afrique, Zanem Neti Zaidi, l'a rencontré pour qu'il partage son expérience.
Nous allons rechercher tous ces déchets de telle sorte que nous allons voir comment débuter déjà la phase de transformation en passant d'abord par le tri.
Jérémy Kazengoufou réunit ses employés pour leur donner un défi du jour qu'ils doivent relever ensemble. Ce défi consiste à chercher des déchets de papier et de cartons qui jonchent les rues, mais qui constituent pour cette entreprise des joyaux précieux dans la fabrication d'emballages biodégradables. Ces déchets sont broyés, la pâte est ensuite pressée et produit du papier qui est mis sur cette bobine et la machine découpe les emballages.
C'est une proposition au problème des pollutions de l'environnement à travers la fabrication des emballages biodégradables. Vous verrez que nous avons un sérieux problème qui alédisse l'image de la ville de Goma et principalement ce problème est dit par rapport aux emballages plastiques que nous utilisons au quotidien. Donc notre projet vient dans le cadre d'apporter une solution au problème que ces sachets-là nous causent.
En plus d'être une solution au problème environnemental, cette entreprise est une réponse au problème du chômage parmi les jeunes Congolais. Bien qu'elle n'ait pas encore beaucoup d'argent, l'entreprise emploie des jeunes dizaines de jeunes, comme Roland, qui peuvent facilement se prendre en charge.
Ce travail est très important pour moi. Depuis que j'ai commencé à travailler, je peux facilement subvenir à mes besoins, comme prendre soin de mes parents, de ma femme et mon enfant. Les peu que je gagne m'aident à payer mon loyer et à couvrir d'autres dépenses.
L'entreprise tente d'asseoir sa notoriété, mais elle a encore du mal à les faire à cause de la prolifération des sacs plastiques qui sont généralement commercialisés. Cet habitant de la ville de Goma, qui n'utilise que des emballages biodégradables, suggère que les autorités s'impliquent pour mettre fin à l'utilisation des sacs plastiques pour un environnement sain.
L'emballage, c'est un emballage né éco-bien.
Les emballages biodégradables nous aident à protéger l'environnement et ils gardent l'environnement sain. Les autorités doivent promouvoir les entrepreneurs qui fabriquent les emballages biodégradables, mais aussi interdire l'utilisation des emballages plastiques pour que nous puissions avoir un environnement non pollué.
Paperbacks rêve de devenir un jour les leaders du marché des emballages biodégradables dans toute l'Afrique. Pour y parvenir, l'entreprise aura besoin d'appui pour renforcer ses effectifs et élargir ses marchés. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Entre parenthèses.
Au Mali, deux mamans font beaucoup parler d'elles. L'une a donné naissance à 5 bébés et l'autre à 9 bébés suite à une césarienne. Les enfants se portent bien ainsi que leur mère. Mariam Kouyaté a rendu visite à ces deux familles exceptionnelles qui racontent leur quotidien.
Samoa Kone, la quarantaine, a donné naissance par césarienne à des quintuplés, une fille et 4 garçons, le 17 juillet 2022 à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako. Depuis la naissance des bébés, de grands changements s'accumulent dans le quotidien des parents.
C'est pas facile pour nous. Au réveil le matin, je m'occupe tout d'abord des biberons pour la préparation. Je me fais aider par une nièce. Ainsi, les autres travaux se suivent. Quand ils pleurent tous à la fois, je prends 2 bébés, mon mari également prend 2 bébés, et on essaie de calmer le 5e étant couché.
Par contre, la situation est différente dans la famille Arbi. Alimane Cissé a 26 ans, elle a battu le record en donnant naissance à 9 bébés, 5 filles et 4 garçons, suite à une césarienne au Maroc. Pourtant, l'imagerie médicale ne laissait voir que 7 fœtus. Alima avait été transférée au Maroc pour un meilleur suivi de sa grossesse. Aujourd'hui, ses nonuplés ont plus d'un an. La famille bénéficie beaucoup de soutien par rapport à celle des quintuplés. Kader Arbi est le repère des enfants.
Sauf qu'ici, c'est exceptionnel. L'État a mis à notre disposition d'autres nounous, des pédiatres, infirmières qui viennent à tour de rôle voir les paramètres des enfants.
En guise de reconnaissance, Alimane Cissé est revenu au Mali avec le record Guinness du plus grand nombre de bébés.
Très contente d'avoir eu cette trophée au nom du Mali.
6 ministres du gouvernement malien, toutes des femmes, ont rendu une visite de courtoisie à la famille. Au nom du gouvernement, Mme Dédéo Ousmane, ministre de l'Éducation nationale, a salué ce geste qui honore le Mali, particulièrement toutes les mamans et grand-mères.
Ils sont revenus fort heureusement avec le Guinness des records. Et c'est un plaisir et c'est un honneur.
Les parents des quintuplés reconnaissent eux aussi les efforts du gouvernement en faveur de leurs bébés. Mais ils demandent un appui pour sécuriser l'avenir des enfants, compte tenu de la situation financière de la famille. Vénam Béan Cissé, père des bébés.
Je suis content d'avoir 5 bébés en même temps. Mais j'avoue que je suis très préoccupé pour leur avenir. On souhaite que l'État malien nous donne un toit à Bamako.
Certains membres du gouvernement malien ont eu des homonymes parmi ces nonuplés et quintuplés, dont le colonel Assimi Goïta. L'un des nonuplés porte le nom du roi Mohamed VI du Maroc. Les bébés sont en parfaite santé ainsi que leur maman. Les nonuplés sont toujours pris en charge par la clinique au Maroc où ils sont nés. Mariam Kouyaté Bamako pour la Voix de l'Amérique.
Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. À bientôt et bon courage. En fait.